Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. À quoi voit-on qu'on a vieilli? C'est la question que nous posons ce matin avec le mensuel Philosophie Magazine. À quel moment s'opère le basculement vers la vieillesse? À quoi sent-on que l'on a pris un coup de vieux? Quels sont les signes qui ne trompent pas et qui indiquent que l'on n'est plus forcément en phase avec son époque? Un décalage plus ou moins léger que l'on accueille avec plus ou moins de joie? Comme le disait Georges Wolinski, vieillir, c'est savoir perdre. Quelles sont les manières d'être et de penser qui trahissent l'âge qui s'installe? Et puis, quelle est la responsabilité de nos sociétés dans ce sentiment d'être dépassé, fané, HS, obsolète? De quelle façon l'âgisme, ce racisme de l'âge, contribue à ce que nous nous sentions vieux? Et d'ailleurs, est-ce si grave que ça de devenir vieux? Et vous racontez-nous le jour où vous avez eu le sentiment de prendre un coup de vieux. À quoi avez-vous senti que vous deveniez vieux? 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale. Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
Éternellement jeune, chef de service à Femme Actuelle. Quel est le menu de vos questions pertinentes?
Ah, il y a un point que j'ai bien aimé dans le dossier. J'ai passé il y a longtemps déjà, hélas, le cap des 46 ans. Alors vous allez sûrement en parler. C'est cet âge à partir duquel on deviendrait de plus en plus heureux. Alors je le suis, formidable.
À tout à l'heure, Marie-Laure. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Blanchi sous le harnais. Le menu de vos choses presque vues.
Eh bien aujourd'hui, nous allons parler paronomase et Pierre Dac.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand Bien vous fasse.
C'est que j'ai 40 ans, c'est le drame de la quarantaine. C'est-à-dire que moi j'ai eu 40 ans cette année, c'est un vrai choc. Et les gens qui te disent, mais non, la vie commence à 40 ans. Mais c'est faux, la vie commence pas à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des espérances de vie 80, 85 ans, c'est énorme. Mais on a la même usure du corps qu'en 1789 en fait. C'est ça le problème fondamental. Moi je sens que je suis foutue physiquement, je suis flinguée, je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite, c'est fini, enfin, c'est terminé. Le matin, je me lève, jusqu'à midi, j'ai la gueule de Mohamed Ali, la voix de mon père. Enfin, mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je sens, mes organes dégénèrent, vraiment. Non, mais je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe, maintenant. La soupe? Mais pourquoi la soupe? Voilà, merci de m'avoir écouté.
Bonsoir. Et vous avez peut-être reconnu l'humoriste et comédienne Blanche Gardin. Bonjour docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, gériatre et docteur en philosophie et vous venez de publier aux éditions du Rocher « Vieillir n'est pas un crime pour en finir avec l'âgisme ». Bonjour Martin Legros.
Bonjour Ali Rébéi.
Rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine avec à la une ce mois-ci « À quoi voit-on que l'on vieillit ?» Et puis on attend le philosophe et essayiste Pascal Bruckner. Docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, le vocabulaire autour de la vieillesse est peu réjouissant. Dans le champ lexical de la vieillesse, on peut retrouver les mots suivants. Antique, caduque, croulant, décrépit, dépassé, fripé, gâteux, hors d'âge, obsolète, ravagé. Ne me regardez pas comme ça, Éric Libiot, je ne parle pas de vous. Docteur Desnouettes.
Oui, tout à fait, mais en plus il est genré. Oui. Parce que en vieillissant, les hommes ont du charme et les femmes pas du tout. Mmh. Ce sont des vieilles peaux. Mmh. Donc la société n'est pas bienveillante. Mmh. Elle sent lexical pour les vrais vieux, ceux dont je m'occupe, qui sont malades, non pas de leur vieillissement, mais d'autres choses. Eh bien, n'est pas du tout favorable et participe justement à cet ostracisme des vieux. Hein. Vieillir n'est pas un crime. Bah si, on criminalise les vieux, on les met très loin de notre regard.
Alors où commence la vieillesse? Existe-t-il une barrière d'âge? Est-ce un ressenti, on peut se sentir vieux à 35 ans et dans la pleine possession de ses moyens à
Absolument.
85.
C'est un processus, c'est une dynamique, donc il n'y a pas d'âge pour vieillir, comme il n'y a pas d'âge pour bien vieillir. Il y a des journées où on est très vieux, comme dit Blanche Gardin, et puis il y a des jours où on se sent une patate d'enfer, où on a envie de tout faire, tout déménage. Donc ce processus, cette dynamique n'a pas d'âge, il n'y a pas de frontières. Et ce qui est terrible, c'est de mettre les vieux dans des frontières. Pour la Covid, à partir de 70 ans, pas de réanimation, sur un seul critère d'âge, ce qui n'est pas entendable.
Est-ce que le juge de paix, c'est notre corps, ce corps qui nous rappelle le passage des années, ou ces parties du corps qui se rappellent à notre bon souvenir?
Tout à fait. Parfois, j'ai un corps et parfois, je suis mon corps. Et quand je suis mon corps et qu'il me pèse et que quand il pleut, j'arrive même plus à marcher ou que mes rhumatismes me parlent, eh bien, on est à raisonner à cette douleur-là physique. Mais on n'est pas continuellement avec ce corps pesant. Parfois, le corps exulte, et exulte d'autant mieux qu'on a une expérience de ce corps.
Alors Martin Legros, dans Philosophie Magazine, vous posez la question suivante à plusieurs personnalités. Le jour où j'ai pris un coup de vieux, et vous posez la question à la romancière Chloé Delhomme, qui vous dit qu'elle a senti le coup de vieux le jour où elle est devenue invisible. Elle vous dit « À 45 ans, j'ai découvert que nous avions, nous autres les femmes, un super pouvoir qui nous est offert au milieu de la vie, le pouvoir d'invisibilité. »
Oui, c'est vrai qu'il y a sans doute un différentiel important entre les hommes et les femmes sur cette question, mais moi je voudrais un peu élargir la question, si vous le permettez, parce qu'il me semble que en enfermant la question de la vieillesse, en faisant une question pour les vieux, on se trompe un peu. Je crois qu'on vit un moment de recomposition qui est intéressant et qui fait que justement la vieillesse concerne dorénavant peut-être tout le monde. Vieillir, c'est une question que les jeunes, par exemple, se sont posé la question pendant le confinement. Est-ce qu'ils n'ont pas pris 2 ans dans la figure pour rien ? Est-ce que c'est pas ça, vieillir ? C'est-à-dire le temps qui passe sans qu'il soit dédié à la possibilité de faire des expériences neuves, comme c'est l'âge de la jeunesse. Mais il me semble aussi, Pascal Bruckner le dira certainement dans un instant, que les personnes plus âgées, comme il le dit, ont gagné une vie en plus. Et du coup, que la question de ce qu'ils font de cette vie en plus, de la recomposition, de la jeunesse qu'ils peuvent retrouver, de la vie nouvelle qu'ils peuvent profiter dans cette vie en plus, se pose. Et donc, je dirais que avant, la question de la vieillesse, c'était quand même la question, on l'a dit, de l'usure du temps, plus difficile sans doute de l'usure des corps aussi, plus difficile la vie pour les femmes dans une société qui fait des femmes celles qui sont en responsabilité davantage sur leur apparence. Eh bien, je crois que les choses se compliquent et que la question de la vieillesse, un, nous concerne tous, mais surtout qu'elle devient à la fois plus subtile et plus profonde. Elle ne tient plus seulement au signe de l'usure, au fait d'avoir des cheveux blancs comme moi, ou avoir de l'embonpoint. Elle tient aussi à des expériences. Et c'est pour ça qu'on a demandé, en effet, à des personnalités de nous dire à quoi tient ces expériences. Et ce qui est intéressant, je réponds là à votre question sur Chloé Delhomme, c'est que Chloé Delhomme, comme d'ailleurs Pascal Bruckner, comme toute une série d'intervenants, ils répondent « Quand est-ce que je suis devenu vieux ?» dans le regard des autres. Et donc, ce n'est pas d'abord une question de mon corps, c'est l'autre qui me dit, qui dit à l'écrivain Simon Johannin, monsieur, et lui qui a 25 ans, se dit, mais enfin, je ne suis pas un monsieur, je ne suis pas encore un monsieur. C'est Chloé Delhomme que les hommes ne regardent plus. C'est Pascal Bruckner à qui on dit qu'il a des poils dans les oreilles, oui, comme un père.
C'est un jour, l'une de ses amies de 20 ans, sa cadette, qui lui dit, tu as des poils dans les oreilles comme mon père, et c'est une phrase qui peut paraître anodine parce qu'on ne se voit pas vieillir, docteur Desnouettes.
Oui, à quoi voit-on qu'on vieillit ? Qui est ce « on » Vous l'avez bien dit, est-ce que c'est moi qui me désespère devant la ride véloce, devant effectivement les cheveux blancs qui garnissent mon crâne aujourd'hui ? Ou bien c'est l'autre, celui que je croise dans le métro, ou bien c'est la société qui me placardise, qui me rend invisible ? Bien sûr, on est toujours le vieux d'un autre.
Pascal Bruckner vous dit dans Philosophie Magazine que le temps procède à un morphing monstrueux. Il dit cette chose très belle, le visage humain est un palimpseste où se superposent plusieurs époques. Il dit également que l'âge s'empare de nous par surprise. Et d'ailleurs, quand on croise un vieil ami perdu de vue depuis très longtemps, on opère une forme de reconnaissance faciale, hein.
Oui, c'est vrai, ça arrive aussi sur les réseaux sociaux quand vous découvrez des photos de camarades de classe que vous avez plus vus depuis 20 ans, vous vous dites mais c'est pas possible. Oui, j'en suis mais je n'en suis plus. C'est une reconfiguration un peu proustienne, un rapport au temps, mais justement ce brouillage est très intéressant, c'est-à-dire on voit bien que on a en nous encore l'enfant ou l'adolescent ou le jeune homme qu'on était à l'âge d'avant. Et donc les âges sont empilés en nous. Et c'est pour ça que je résiste à l'idée de dire qu'il y aura un moment donné où on devient vieux, où il y aurait des vieux. Non, les vieux, la vieillesse aujourd'hui, c'est cet empilement des âges, et qui est donc une expérience riche, à la différence peut-être de la jeunesse, qui est plus une page blanche. Donc il y a des différentiels, mais ne mettons pas dans des cases, des vieux, la question de la vieillesse. Devenir vieux, prendre un coup de vieux, ça peut se faire à 20 ans, le lendemain d'une fête, où on n'arrive pas à redémarrer, par exemple.
Docteur Lefebvre Desnouettes.
Ah, je suis absolument d'accord avec vous. Mais il n'y a pas que des déficits à devenir vieux. Moi, j'ai soutenu une thèse de philosophie à 62 ans, et j'en suis ravie. Il y a la transmission, il y a tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, que nous avons vécu, et que maintenant nous pouvons transmettre. Moi, je tricote très bien, j'ai transmis mes petits-enfants à apprendre à faire du point, des points compliqués, et ça, c'est une merveille. Donc, il faut cesser de dire et d'assigner les vieux à leur âge.
Alors, Pierre Brice nous écrit ceci. Je me suis vraiment rendu compte que j'ai pris un coup coup de vieux quand une jolie jeune fille s'est levée dans le TER pour que je puisse m'asseoir. Et quand je l'ai remerciée, elle m'a répondu qu'elle n'avait pas voulu me vexer, mais que son grand-père ne prend pas soin de lui. C'est pour ça qu'elle l'a laissé, elle lui a laissé la place.
Mais oui, de nouveau, c'est-à-dire que c'est l'autre qui m'assigne en quelque sorte à un âge ou à une faiblesse. Alors c'est très respectueux et c'est très bien. Mais j'ai l'impression que si on veut creuser de l'intérieur et pas uniquement dans le regard des autres ou de la société, qu'est-ce que c'est qu'être vieux, il y aurait peut-être deux trois expériences fondamentales. Une expérience, par exemple, c'est à un moment donné, il est vrai que il y a un décalage entre ce que je suis capable de faire, monter les escaliers quatre étages à toute allure, et ce que je crois pouvoir faire. Ce décalage-là, il se répète quand on prend un peu d'âge, c'est-à-dire on est moins bon dans le sport, on est moins bon, etc. Ou pas moins bon, on tend à surestimer ses capacités. Ça, je crois que c'est un signe assez important. Mais ça ne veut pas dire, parce que un deuxième signe de l'âge, c'est de renoncer trop tôt. C'est-à-dire de dire, moi, j'ai pris un, c'est pas pour moi. Ça, c'est un signe de vieillesse. Et donc, toute la question de vieillir, c'est comment articuler cette sagesse, en un sens, de savoir de ce dont on est capable, avec le fait de ne pas renoncer, qui serait vraiment basculer dans une forme de retraite prématurée.
Véronique Lefebvre-Desnouettes.
La vieillesse est à la fois un pharmacone, c'est-à-dire un poison et un bienfait. C'est-à-dire que oui, on s'adapte à la nouvelle donne, ça c'est formidable, et oui, on peut renoncer. C'est cette dynamique-là qu'il faut toujours faire travailler. Dans mon hôpital, je monte les 4 étages, 4 à 4, depuis 35 ans, et ça n'a pas diminué. Donc il faut avoir la sagesse d'anticiper ce vieillissement, cette perte des forces, mais ne pas renoncer, vous avez tout à fait raison, j'ai toujours pas renoncé, et je ne prends pas les ascenseurs.
Alors à titre personnel, je me suis senti un peu vieux quand des jeunes ont commencé à m'appeler monsieur. Et vous, Éric Libiot ?
Mais vous faites bien de me dire, parce que je crois que j'ai un souvenir excessivement précis de ce moment dans le métro, comme l'auditeur, la remarque que vous faisiez tout à l'heure de quelqu'un qui s'est levé pour... Et c'est horrible, mais c'est horrible.
Mais moi,
et en même temps, c'est assez touchant, mais...
J'aimerais bien qu'on se lève, mais on se lève.
Je vous promets que je me lèverai si je vous vois.
Merci. Bonjour Marie, bienvenue.
Bonjour à tous.
D'où appelez-vous, Marie ?
Alors, je vous appelle de Poissy dans les Yvelines.
D'accord. Alors, je ne vais pas vous demander votre âge. Enfin, si, vous pouvez le donner, si vous voulez.
Oh oui, je vais avoir 73 ans le mois prochain. Et je suis désolée de vous dire que je me sens toujours très jeune.
Ah bah, expliquez-nous pourquoi, tiens, Marie.
Pourquoi ? Ben parce que je crois que j'ai jamais perdu cette capacité à m'émerveiller de tout ce que je vois, de tout ce que je rencontre. Je crois que j'ai le goût des autres en plus. Alors c'est vrai que j'ai plein d'activités, ça fait 30 ans que j'accompagne des personnes en fin de vie et j'ai jamais imaginé que je pouvais encore arrêter parce que j'ai toujours le goût de la rencontre avec l'autre. Je suis émerveillée tous les matins par la beauté du monde, par une jolie toile d'araignée où il y a la rosée dessus. Enfin voilà, je malgré le Covid, malgré tous les petits maux qu'on peut avoir, parce que évidemment j'ai de l'arthrose, et voilà, comme tout le monde à mon âge, mais je me sens pas vieille du tout. Alors peut-être qu'un jour je serai vieille, mais je sais pas.
Est-ce que vous avez des personnes de votre génération qui justement voilà se sentent vieux, se sentent dépassés?
Oui, beaucoup. J'ai des amis autour de moi qui voilà, je crois que qui sont pessimistes, qui baissent les bras, quoi, par rapport à l'idée de l'âge. Alors que, voilà, moi, je suis un peu comme une de vos invitées. J'ai passé un DU de soins palliatifs, j'avais 43 ans. Je me sentais aussi jeune. Encore, voilà, je crois qu'il faut toujours... Il faut toujours un peu se pousser, mais voilà. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on a en soi ou est-ce que ça se cultive ? Je crois que ça se cultive aussi.
Docteur Lefebvre-Desnouettes.
Magnifique témoignage. Oui, tant qu'on a la curiosité des autres, de la belle rencontre, du coquelicot qui sort du bitume, de s'occuper des autres, ça c'est quelque chose. Je suis médecin hospitalier. Je demande à ne pas partir en retraite. Je demande à être encore tous les jours, malgré, comme dit cette dame, la Covid, malgré ce que nous traversons encore. pour la cinquième fois, malgré, eh bien, elle travaille en soins palliatifs. Vous voyez cet amour de la vie, cette curiosité des autres.
Martin Le Gros.
Oui, j'ajouterais une chose qui me semble, il ne faudrait pas que les seniors, comme on les appelle aujourd'hui, d'un nom un peu je dirais, très prudent, oui, très fourre-tout, mais que les personnes qui sont un peu plus âgées que les autres fassent comme si elles étaient tout simplement, elles se sentaient jeunes, donc elles sont jeunes. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on peut être âgé, avoir de l'expérience et avoir de l'énergie, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas justement, à la différence des jeunes, on n'a pas vécu des choses, on n'a pas vécu des deuils, des pertes, des séparations, des difficultés, de l'adversité, et que donc aussi c'est pas, on est jeune, oui, mais on est jeune tout en ayant traversé ces expériences. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une reconfiguration du grand âge, de la même manière que on voit aujourd'hui les jeunes générations. Pensez à Greta Thunberg, elle interpelle avec beaucoup de sagesse, de force, mais peut-être aussi un peu d'excès en prenant le ton d'une personne quasi âgée. J'ai l'impression qu'elle est déjà trop raisonnable, Greta Thunberg, et qu'elle interpelle les boomers en disant mais vous avez flambé, vous voulez continuer à flamber, c'est pas responsable. Elle donne une leçon aux générations plus âgées. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une reconfiguration, si vous voulez, où les jeunes ne sont pas exemples de sagesse et où les personnes plus âgées, fortes de l'expérience, ont envie aussi de la faire valoir et de continuer à avoir une vie intense.
Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé. Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Martin Le Gros. Cette notion d'âge ressenti, finalement, que nous renvoie, alors souvent, bien sûr, les générations qui nous suivent. Je pense, souvenez-vous à ce débat entre Jacques Chirac et un panel de jeunes en 2005 sur l'Europe. Cette phrase du président qui avait l'air complètement perdu sur le pessimisme des jeunes et qui a répondu « je ne le comprends pas ». Et puis c'est aussi plus récemment, il vient de le dire, cette expression « ok boomer » hein, qui nous met tous un peu à la marge. Est-ce que c'est ça finalement, se sentir vieux, c'est-à-dire ne plus comprendre les préoccupations, les attentes, les valeurs des générations qui nous suivent, être complètement en décalage finalement ?
Marie-Laure Sunshine, ok boomer, rappelez peut-être ce que ça veut dire.
Bah c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est de renvoyer les générations plus âgées finalement à des préoccupations qui leur échappent, à un monde qu'ils ne comprennent pas, dans lequel ils ne sont pas finalement au fait. Et je pense évidemment à tout ce qui peut être réseaux sociaux, numérique et ce genre de choses.
Véronique Lefebvre-Desnouettes.
D'où l'intérêt de l'intergénérationnel, d'où l'intérêt de se comprendre, de s'apprendre, sans justement la prévention du ok boomer, qui vous marginalise de la société. C'est ce regard sociétal contre lequel il faut lutter. Et les jeunes, on nous apprend, et moi j'ai beaucoup à apprendre aux jeunes aussi, bien sûr.
Martin Le Gros.
Oui, ok boomer, ça veut dire ce que tu le dis en tant que issu de la génération du baby boom. Et donc ce que tu dis, c'est pas en tant que personne, c'est oui, on sait, t'es un vieux con. C'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai que la jeunesse, enfin, c'est quand même de toute génération. En 68, la génération qui a fait 68 a dit aussi les vieux cons, laissez-nous la place. Donc la jeunesse tend à dire aux plus âgés, à déclasser les plus âgés. Nietzsche a envoyé valser de manière intempestive tous les philosophes dont il était contemporain en disant c'est des vieux cons, ils n'ont pas compris qu'il y avait une nouvelle manière de philosopher, qu'il fallait toucher à la vie, qu'il fallait être dans l'énergie, qu'il fallait tout casser au marteau. Et c'était ça le nouveau visage de l'esprit. Donc, de tout temps, à mon avis, les jeunes arrivent et nous chassent, en un sens, nous poussent. Mais ça ne veut pas dire que, ils ont raison, et ça ne veut pas dire que nous, on doit simplement regarder passivement cela. On peut aussi leur dire qu'ils ont ceux qui nous déclassent, ils n'ont pas d'expérience, y a un excès dans, et qu'au contraire, il pourrait y avoir, on le voit, moi je suis convaincu qu'on oppose aujourd'hui les boomers aux jeunes. Je crois qu'en réalité, il y a une conversation des générations aujourd'hui. Moi je le vois en tout cas avec mes enfants. Ça veut pas dire que j'efface et que je fais semblant d'être un jeune avec mes enfants, mais il y a une conversation, il y a des valeurs différentes, il y a une conversation entre les générations qui est très féconde, et moi j'adore ça en tout cas.
Véronique Lefebvre-Desnouettes, je reprends le titre de votre livre, Vieillir n'est pas un crime. Je connais des personnes qui vivent le vieillissement comme une maladie et qui ont par exemple décidé de ne plus donner leur âge, de peur de prendre un coup de vieux en le disant. Est-ce que l'illusion est préférable à la lucidité en la matière ?
Oui, bien sûr, pour certaines personnes. Ouais. Parce que c'est l'éloge de la singularité. Quand on massifie les vieux, c'est là qu'on les criminalise, c'est là qu'on les assigne à résidence dans des EHPAD hors les yeux. C'est là qu'on dit qu'ils sont tous des vieux démons, ce qui est particulièrement faux. Le vieillissement n'égale pas troubles cognitifs. Et moi, les patients dont je m'occupe sont des patients qui ne peuvent plus rester chez eux, qui sont polyhandicapés qui ont beaucoup de dépendances, qui ont des pertes de capacité, dont des troubles cognitifs, mais qui ne représentent que 5 à 10% de la population des grands vieillards de plus de 80 ans. Et je veux être leur porte-parole, je veux montrer que malgré tout, ils ont des choses à nous dire et à nous transmettre.
Quelle est la part de responsabilité de nos sociétés dans cette peur de prendre un coup de vieux ?
Elle est immense. Regardez, malheureusement, il a fallu attendre 3 ans pour avoir un secrétariat d'État aux personnes âgées. C'est la première fois dans un gouvernement. La loi grand âge est passée à la trappe, aux grandes dames de tous les acteurs de la société. Moi, je me bats pour qu'on retrouve la fierté de travailler auprès de nos aînés. De la gériatrie, que ça ne soit pas un repoussoir. C'est merveilleux d'être là et de tenir la main jusqu'au bout, d'être en capacité d'eux. Et moi, dans cette transmission que vous prenez, Martin Legros, eh bien, je m'occupe des jeunes externes. Je leur apprends à écouter, à regarder leurs malades et pas à être dans les procédures et à cocher des cases. Donc ça, c'est une nouvelle, on appelle ça la médecine narrative, c'est une nouvelle médecine que je promeus, mais je me mouille, j'y suis, je vais à la fac, je suis là pour non seulement leur apprendre, mais leur transmettre mon expérience.
Et de quelle façon l'âgisme, ce racisme de l'âge, contribue à ce que nous nous sentions vieux ?
Eh bien, justement, on se lève dans le métro, ou pas, d'ailleurs, on vous donne plus votre place. Et la vieillesse, c'est à la fois, à mon âge, on me le fait pas, mais à mon âge, c'est plus pour moi. On nous assigne, je vous dis encore une fois, à résidence, même à être, à intérioriser qu'on est moche, qu'on vaut plus rien, que les hommes ne nous regardent plus, qu'on est plus séduisant, ce qui est faux. Mais c'est encore une fois la massification des vieux qui fait ça. Et le fait que, même les vieux, ils sont dépressifs. Ils se suicident. Sur les 10 000 morts par suicide en France par an, 4 000 sont le fait des personnes âgées. En général, des hommes sans réseau social, dépressifs, qui n'ont plus de raison de vivre.
Martin Legros.
Oui, j'entends bien. Je suis d'accord. Je résisterai, excusez-moi, à Ali Rebéhi, à cette formule de racisme de l'âge, qui me fait un peu tiquer, parce que j'ai l'impression que c'est à la fois une erreur sur le racisme et à la fois une erreur sur l'expérience de l'âge. C'est-à-dire que voilà, excusez-moi, hein, mais c'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que il me semble que le racisme a, s'il veut dire quelque chose, c'est d'enfermer les individus dans leur origine ethnique ou couleur de peau, dans quelque chose, et que enfermer les vieux dans leur vieillesse, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Il y a d'abord du commun. Il est vieux, mais on est semblable. Alors que dans le racisme, il y a une assignation quand même hiérarchique et une exclusion de l'humanité quasiment. Et il me semble que la différenciation des individus, on peut pas faire comme si. Nous n'étions pas différenciés par nos âges, c'est-à-dire que la couleur de peau, on en a fait quelque chose, mais il y a des humanités qui considèrent que ça n'a pas de pertinence. Il n'y a pas d'humanité qui considère que les personnes, que la mort, l'approche de la mort, que la vieillesse n'est pas une donnée et qu'il faut en tenir compte dans l'expérience. Donc je résisterai à cette notion.
Alors je peux expliquer, c'est un choix éditorial fort, mais qui vient du mouvement de All Black Matters. Et les gériatres, nous avons pris le fait que les personnes âgées devaient nous intéresser et qu'ils étaient, par la massification, assignés à leur vieillesse.
All
Black
Matters, ça veut dire les vieux comptent aussi, en
français. Voilà, comme les blacks comptent aussi. Hein, c'est quelque chose, c'est un slogan, je suis bien d'accord avec vous.
Hein, j'entends bien, mais on vient quand même, écoutez, on ne peut pas dire que les vieux ne comptent pas, on vient quand même de suspendre l'économie mondiale par un souci prioritaire que je défends, des personnes âgées. Donc dire que les vies âgées et dépendantes ne comptent pas, ce serait quand même contraire à l'expérience historique
qu'on
vient
de vivre. Alors je vais temporiser, hein, parce qu'il a fallu attendre des mois pour avoir en gériatrie un masque.
Oui, c'est toujours
du matériel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a deux vitesses, une médecine à deux vitesses, l'AREA, les héros, et nous en gériatrie, les zéros. Bon, et on reste très ambivalent sur nos vieux. Quand il s'est agi de les vacciner, moi, j'étais aux premières loges, bien entendu, dans mon hôpital, on a dit, on va vacciner les vieux. Et tout le monde a dit, on fait une expérimentation, parce que de toute façon, ils vont mourir. Si ce vaccin ARN est dangereux, eh ben, ça sera les vieux qui payeront. Vous voyez qu'on reste très ambivalent.
Allez, dans quelques instants, nous évoquerons des signes qui ne trompent pas et qui indiquent bien que l'on a pris un coup de vieux. En attendant, un titre qui ne vieillit pas, un titre des Who, My Generation. Just because we get around. Talking about my generation.
for get old. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Groupe de jeunesse d'Éric Libio, My Generation.
Ouh là là, je capte mal la Wi-Fi.
Grand bien vous fasse.
Peut-être redémarrer la pasta box.
Ali Rebéi.
Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook.
Sur France Inter.
10h34, à quoi voit-on qu'on a vieilli? C'est la question que nous posons ce matin avec Philosophie Magazine. Et vous, quand avez-vous senti que vous aviez pris un coup de vieux? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
À quoi je sens que j'ai vieilli? Ah ben, il y a des choses que je fais moins vite, mais avec plus de sagesse.
J'ai pas vieilli, au contraire, dans ma tête, même j'ai une copine à moi qui me dit souvent « Toi, tu seras jamais vieille quand tu veux ».
On voit qu'on a vieilli à la manière dont on arrive à se lever le matin, en plus ou moins bon état et en se demandant finalement à quelle partie du corps on va avoir mal. Voilà.
Je pense que je suis pas le bon exemple à prendre, dans la mesure où, dans ma famille, il y a beaucoup de centenaires. J'espère en prendre le chemin.
Je me lève, je me dis déjà, est-ce que je peux me lever en une fois, deux fois, trois fois? Et ensuite, si j'arrive à me lever, je dis, où est-ce que j'ai mal ce matin? Voilà, une sorte de scan de la personne.
Là, je considère que je passe un cap. Je viens d'avoir 65 ans, j'ai eu 65 ans en avril, et donc c'est un premier cap. Mais j'ai de nouvelles activités dans lesquelles je suis plus libre, je suis libre de ma parole, je suis libre de donner ce que je sens, ce que je sais, et de donner mon avis.
On gagne en légèreté, je trouve, finalement, en vieillissant. On a moins de choses à faire de la vie des autres, du regard des autres, etc. On est plus sûr de soi, en quelque sorte. Donc ça, c'est quand même un avantage et une force.
On s'est dit, plus le temps passe, plus on mûrit. On voit la vie autrement.
Et après, si on arrive à commencer sa journée, c'est qu'on n'a pas trop vieilli. Si on a trop vieilli, on se met sur le canapé, on dort et puis c'est terminé. Et on attend la mort avec bienveillance et avec humilité surtout. Parce que l'être humain n'est qu'humilité.
propos recueillis par Victorien Thomas la semaine dernière dans les rues de Paris. Un commentaire, docteur Véronique Lefèvre-Desnouettes. Vous publiez « Vieillir n'est pas un crime ».
Alors, effectivement, on parle beaucoup du corps. Comment on va se réveiller le matin? Mais ce n'est pas que ça, vieillir. Hein. La sagesse, l'humilité, ça, c'est formidable. Mais moi, je connais des ados qui se réveillent à midi et qui sont pires que le centenaire. Hein, qui vont mettre un temps fou à ramper pour se lever.
Et tiens, Maj, notre stagiaire de 3e au micro avec nous, bientôt 15 ans. C'est quoi un vieux pour toi, tiens?
Alors, pour moi, un vieux, c'est vrai qu'on a plusieurs... définition du vieux, mais pour moi je pense qu'un vieux, c'est à partir du moment où on regarde la personne et on se dit il comprend plus rien à ce qu'on dit maintenant. Des fois je regarde ma mère et on discute, et puis des fois je lui sors des mots et elle est là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et elle est pas vieille, mais pour moi...
elle est dans les années 70 en plus, donc elle est pas si vieille que ça. Tiens, on a reçu énormément de messages hein, sur notre page Facebook. Yannick qui nous dit bonjour à tous, compte que l'on vieillit, c'est entendre Nirvana sur Radio Nostalgie. Eric nous dit je me suis rendu compte de ne plus être tout jeune lorsque quelqu'un m'a dit que je ne faisais pas mon âge, très dur à 50 ans. Laure nous dit j'ai pris un grand coup de vieux quand j'ai entendu pour la première fois que la vaccination était d'abord pour les personnes âgées, 65 et plus, et que j'ai 66 ans. Ça m'a vraiment blessé, sidéré. Et puis Roger nous dit un petit signe que l'on a vieilli, c'est quand on nous applique le tarif réduit au cinéma sans nous demander la carte d'identité et se tromper de salle car on ne l'a pas bien lu sur le billet, par flemme de sortir ses lunettes. Ils sont très drôles, hein, docteur
Desnouettes.
Oui, mais
ils ont énormément d'humour, les auditeurs. Mais mes vrais vieux, mes très très vieux de l'hôpital qui ont plus de 80 ans, ont aussi énormément d'humour. Et ils sont dans la vie, ils sont dans la curiosité, et c'est du tac au tac, ça sort. Ouais. Hein.
Et Nicole nous écrit par courriel, c'est cette semaine que je me suis rendu compte que je n'étais plus jeune en recevant la lettre de la mairie m'annonçant que cette année j'aurai droit au colis de Noël destiné aux plus de 75 ans. Martin Legros.
Ouais, ce qui est amusant, je trouve, dans ces témoignages, dans tout ce que vous avez recueilli dans la rue et ceux qui sont envoyés, c'est comme si en réalité on se rendait compte que la séparation de l'âme et du corps, on l'a envoyé aux oubliettes philosophiquement et mentalement. On considère que le corps et l'âme sont ajointés, qu'il y a pas. Et en fait, c'est une question où on voit que là, on refait l'expérience de la dissociation entre l'âme et le corps. On se lève le matin, on se demande si notre corps va être... Et pourquoi ? Parce qu'on a mis dans nos âmes, nos esprits, sont habités par l'idée d'une jeunesse perpétuelle, en réalité. On a la possibilité d'être beaucoup jeune, c'est vrai quand même, d'avoir un corps complice beaucoup plus longtemps, et on se demande quand est-ce que cette machine va commencer à se détraquer. Comment est-ce qu'on va refaire l'expérience de la dissociation de l'âme et du corps, dont on croyait que c'était une vieille chose.
Vous êtes très drôle, continuez à nous envoyer des messages par courriel ou sur la page Facebook. Alors, existe-t-il, Martin Legros, des signes qui ne trompent pas, des signes qui nous font bien sentir qu'on a pris un gros coup de bambou alors qu'on se croyait plus jeune qu'on ne le pensait? Au-delà de l'usure des corps et de l'esprit, existe-t-il des signes plus subtils et plus fondamentaux? Vous avez repéré 4 signes dans Philosophie Magazine.
Oui, s'il fallait les rassembler, on les a déjà évoqués en réalité. C'est premier signe, je le disais, c'est surestimer ses forces. C'est-à-dire, je monte l'escalier, ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental. C'est-à-dire croire qu'on peut faire des choses en une nuit, ou en 24 heures, alors que ça allait mettre plus de temps. Donc surestimer ses forces. Mais signe contraire. Du fait qu'on mesure qu'on n'a plus toutes les forces de la jeunesse, renoncer. Quand on renonce trop vite, ça veut dire qu'on a aussi pris de l'âge. Troisième signe, c'est évidemment anticiper la fin. Les personnes âgées pensent davantage à la mort. Quand on est jeune, c'est une perspective tout à fait lointaine. Donc, quand l'échéance se rapproche, et donc l'obsession de la mort devient un signe de vieillesse auquel Montaigne disait la mort, c'est pas le but de la vie, c'est le bout de la vie. Et il invitait les personnes âgées à jouir le plus longtemps possible loyalement de notre être. Et puis quatrième signe, vous en avez parlé. Ton prénom c'est
Maj,
c'est ça. Hein. Eh bien, c'est l'idée d'être décroché, c'est-à-dire de ne plus comprendre les nouvelles générations, et donc d'être refoulé, je dirais, dans le passé. avec toute la nostalgie que ça peut avoir par les vieilles générations. Donc c'est les quatre signes. Surestimer ses forces, à mon avis, c'est penser à la mort, c'est renoncer un peu trop vite et c'est être déclassé par les nouvelles générations.
Mmh. Alors moi je vais dire l'inverse. En tant que médecin, médecin gériatre bien sûr, eh bien on a beaucoup plus de tempérance, on jouit de l'instant présent. Mes vrais vieux ont un élan vital pas possible avec une sexualité qui s'affiche dans un hôpital gériatrique, qui n'est pas sans poser question aux soignants. Hein. Ils disent, mais alors, c'est plus possible. Ben, si, c'est possible, la vie nous habite jusqu'au bout. Et ils comprennent très très bien les jeunes et leurs petits-enfants. Hein, c'est juste une question de vocabulaire, c'est ce que je vais dire. Et ils ne sont pas du tout obsédés par l'idée de la mort. Par contre, ils aimeraient tous, ils me disent tous, j'aimerais mourir dans mon sommeil. Mmh. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est mal mourir, c'est souffrir, et on le comprend très bien, c'est pour ça qu'on développe les soins palliatifs, l'accompagnement des patients douloureux. Ça, c'est inimaginable de mal mourir encore aujourd'hui en France, hein, bien entendu.
Docteur de Lefebvre-Desnouettes, vieillir, c'est se sentir vieux, c'est sentir que l'on n'a plus rien à apprendre aux autres. C'est quand on commence à se sentir inutile.
Oui. Alors l'inutilité, elle vient très tôt, hein. elle vient avec le fait de qu'on n'est plus en capacité de comprendre son enfant, elle vient avec la retraite bien entendu, je ne sers plus à rien, j'ai plus d'argent, j'ai la petite retraite des vieux, je ne peux plus gâter mes enfants, mes arrière-petits-enfants, personne ne vient me voir à l'hôpital, personne ne vient me voir dans l'EHPAD, bien sûr qu'on a mis beaucoup d'argent pour les personnes âgées dans le cas de la Covid, mais on a enlevé les soignants ne sont plus là, les lits sont fermés. Donc vous voyez qu'il faut redonner cette fierté de travailler auprès des personnes âgées, même avec handicap.
Et c'est ce qui explique le grand investissement des vieux dans les associations. Sans l'investissement des personnes âgées, plus d'associations viables. Hein.
Absolument. Ça, c'est, et on le voit vraiment dès 50 ans, 55 ans hein, chez les pré-retraités. Ils sont extrêmement actifs. D'ailleurs, le planning d'un retraité est plein. Il faut s'inscrire pour avoir les petits-enfants aux vacances parce qu'ils ont la danse, ils ont apprendre à faire internet, ils ont etc. Et ils multiplient les groupes associatifs et ça c'est un bonheur. Mmh. Et ça maille le tissu social, c'est extrêmement important.
Jessie nous écrit « J'ai 63 ans et je me sens de plus en plus rejetée par les jeunes. Il est de plus en plus difficile d'avoir des activités avec des participants plus jeunes et je me retrouve entre vieux. Par exemple, les jeunes organisent des sorties sur les réseaux sociaux en indiquant des tranches d'âge desquelles je me sens exclue, sur ce sentiment d'exclusion. »
Oui, il est très présent, justement, quand il y a les tranches d'âge. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous êtes dans un groupe de marche, tout simplement, on peut apprendre à bien vieillir, marcher. Je ne dis pas de faire du sport, une demi-heure par jour. Ça fait reculer, ça entretient le corps, l'esprit. On n'est pas du tout dissocié à la Descartes. On n'est pas un animal, une machine, hein, du tout. Bien sûr qu'on a les deux. Oui, dès lors qu'il y a des tranches d'âge, il y a toujours un exclu.
Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, je rejoins un peu ce que vient de dire le docteur Lefebvre-Desnouettes. Il y a effectivement cette notion de mélange, hein, d'intergénération. Je pense aussi au site de rencontre, hein, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les activités diverses. Le mentorat en entreprise, ça c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé et qui permet justement aux personnes dites plus âgées d'apporter cette expérience, ce savoir, cette transmission, ce partage. C'est extrêmement valorisant aussi. Finalement, la société, on le disait, responsabilise, renvoie une image négative des jeunes, mais aussi, par certains aspects quand même assez positifs, active.
Martin Lougros.
Oui, j'ai vu récemment un film un peu démagogique qui s'appelle Le Stagiaire avec Robert De Niro. Mmh. Et Robert De Niro a 70 ans et il rejoint une entreprise, une start-up où il joue le stagiaire. C'est un peu démagogique, mais c'est assez juste, c'est juste pointé. C'est-à-dire que, à mon avis, en effet, nos catégories mentales et même sociologique, départ à la retraite à 60 ans. Alors, je vais pas rentrer dans ce débat de la retraite, mais simplement, en effet, il est pas certain. Qu'est-ce qu'on va faire de cet âge, de cette vie en plus dont parle Pascal Bruckner? Est-ce que on va juste se mettre au garage et se retirer? Ou est-ce qu'on peut envisager autrement une transmission, une participation intergénérationnelle? À mon avis, c'est une des grandes questions politiques qui est malheureusement pas traitée dans le débat public, mais qui est intéressant. Et pour rejoindre ce que vous disiez, Pascal Bruckner cite une formule que je trouve très, très très jolie, toute simple, sur la vieillesse, comment se rapporter au fait de prendre de l'âge, de Jean Paulhan, l'écrivain, qui disait « J'espère vivre jusqu'à ma mort ». Et il faut bien entendre, vivre jusqu'à ma mort, c'est-à-dire que rester vivant. Mais qu'est-ce que c'est que rester vivant jusqu'à ma mort? C'est toute la question de la vieillesse, à mon avis.
Allez, dans quelques instants, on continue à explorer les signes qui montrent qu'on a vieilli. Avec notre réalisatrice Claire Destacan, on se disait au bureau que ça commençait... quand on commence à commenter à voix haute ce qu'on est en train de faire. c'est quand même un petit signe. Voilà. Lui aussi aime bien commenter ce qu'il est en train de faire quand il travaille, Eric Libio et ses choses presque vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Libio.
Alors, puisque je ne sais pas si je vais arriver à la fin de cette chronique en bonne santé, vu que je serai plus vieux de 3 minutes, je vous livre dès maintenant cette réflexion d'Éric Satie. Si vous voulez vivre longtemps, vivez vieux. Personnellement, c'est une réflexion dont j'aime le fatalisme et la logique imparable de Lapin. Elle me ravit tous les jours que Dieu ne fait pas. Alors bien sûr, pour ne pas vieillir, on peut aussi faire comme Benjamin Button dans la nouvelle de Scott Fitzgerald, L'étrange histoire de Benjamin Button, naître vieux et rajeunir tout au long de sa vie, prendre la vie dans le sens du rebrousse-poil, faire marche avant en marche arrière. Eh bien, j'ai beau appuyer sur le button, ça ne marche pas. Il faut donc trouver d'autres solutions. Et dans votre numéro de Philomag, Martin Legros, vous proposez diverses stratégies pour faire face au vieillissement, la sublimation, l'action. La folle dépense et l'économie des forces. Une des stratégies de l'économie des forces est de prendre la voie de l'ascèse. Je deviens peut-être vieux, mais je n'ai pas vraiment compris cette stratégie de l'ascèse. L'ascèse, pour être précis, c'est quand même l'autoroute qui va de Paris à la Belgique. Alors pourquoi prendre l'ascèse pour faire face...
La une pour la Belgique.
Pardon ?
La une pour la Belgique.
Oui, mais l'ascèse aussi y va. Voilà, j'ai vérifié, excusez-moi. Alors pourquoi prendre l'ascèse pour faire face au vieillissement? Je ne vois qu'une seule solution. L'ascèse ne conduit pas vers l'amour, mais vers la mer. Même si aller vers la mort peut avoir un goût amer. Eh bien moi, pour faire face au vieillissement, je suis plutôt dans l'action. Pour ne pas vieillir, j'essaie de faire marcher ma tête, ce qui est mieux que de marcher sur la tête. Et personnellement, question tête, je suis plutôt tête de Vos que tête de veau. Raymond de Vos, évidemment. Alors oui, je sais, c'est un jeu de mots qui vaut ce qui vaut, mais même un jeu de mollets, pas forcément neuf, fait courir les neurones. Et entretien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc oui, je le clame, je le revendique et je l'assume. Pour rester jeune, il faut des nourritures de l'esprit. Oui, je suis pour le jeu de mots intempestif et systématique. Et surtout, n'ayez pas peur de prendre un bide quand vous balancez un jeu de mots. D'ailleurs, quand on est vieux, il n'est pas rare de prendre du bide. Il y a d'ailleurs une certaine satisfaction paradoxale à balancer un jeu de mots et que personne ne le remarque ou que personne ne rit. Une rille de veau, évidemment. Le jeu de mots, de son autre nom, le calembour, calembour, dont l'origine est incertaine d'après le dictionnaire de la langue française d'Alain Rey, mais à vue de nez, ça viendrait tout de même de calembredaine et de bourder, dire des bourdes. Il n'y a donc aucune raison de bourder notre plaisir et de ne pas s'amuser de contrepés, d'allitération, d'homophonie, de mots valises, d'à peu près, de syllabes et pourquoi pas, d'antanaclase, de paronomase, d'astéisme, comme le signale Bertrand Dupriez dans le Gradius, le dictionnaire des procédés littéraires. Alors, la syllepse, comme vous le savez, Ali, c'est jouer avec le nom propre et le nom figuré. L'antanaclase, c'est une répétition de mots qui joue sur la polysémie. La paronomase, c'est jouer avec l'homophonie. Et l'astéisme, c'est utiliser un compliment sous la forme d'un blâme, ce que vous faites assez régulièrement. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Oui, j'aime les jeux de mots et les dictionnaires qui déroulent l'alphabet et l'oméga des beautés et des mots de l'existence. Les dictionnaires, là où les noms communs brillent comme s'ils étaient propres. Pour lutter contre le vieillissement et être à la page, il faut lire un peu de dictionnaire tous les jours. Hier, par exemple, à la lettre D, des noms propres et bien repassés, je suis tombé sur Pierre Dac. Pierre Dac, le prince sans rire du non-sens, qui, sur le thème de la vieillesse, a sans doute eu la conclusion définitive. En tout cas, ce sera le mot de la fin de cette chronique. S'il n'est pas permis de vivre vieux, qu'on nous laisse au moins naître plus tôt.
Et je vais encadrer ce jeu de mots au début de votre chronique, imparable de Lapin. Bravo mon cher Eric, vous pouvez podcaster sa chronique sur l'appli France Inter. Tiens, question personnelle, vous avez fêté vos 60 ans il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez eu le sentiment de prendre un coup de vieux?
Mais c'est horrible, c'est le seul moment, parce que les dizaines marchent comme ça, mais moi 40, 50, 20, 60, oui, alors peut-être parce que c'est, je sais pas, l'approche de la retraite, mais 60 ça m'a effectivement fait... Heureusement que vous étiez là pour l'anniversaire, mon cher Annie.
Aidez-le, le docteur Lefebvre Desnouettes.
Alors, rassurez-vous, d'abord, je suis là.
C'est très gentil, mais...
Et moi, quand j'ai eu 67 ans, il y a 6 mois maintenant, eh ben, je me suis pas du tout sentie vieille. J'ai pas pris de coup de bambou, ni coup de vieux. Et je demande à prolonger mon activité hospitalière.
Voilà, c'est pour ça que je continue à lire les dictionnaires.
Allez, dans quelques instants, on continue à explorer ces signes qui ne trompent pas et qui montrent qu'on a pris un petit coup de vieux. Ce sera juste après Laura Cahen, qui interprète Désarmée.
Mes pieds se sont brisés, le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai
qu'elle interprétait Désarmée.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi, sur France Inter.
10h53, à quoi voit-on qu'on a vieilli avec le mensuel Philosophie Magazine. Vous nous avez envoyé beaucoup de messages très drôles. Dominique nous écrit, c'est quand on reçoit le catalogue pleine vie ou une proposition convention obsèque par sa mutuelle à la retraite alors qu'on n'a rien demandé. Elisabeth nous dit, un jour dans la rue, des jeunes me suivent, me sifflent, puis ils me dépassent, me regardent et disent « Oh pardon !» Cela m'a beaucoup amusé et je les ai remerciés, j'avais 60 ans à ce moment-là. Et Marie-Pierre nous écrit, le jour où j'ai compris que je vieillissais, c'est le jour où j'ai cru voir ma mère dans le miroir, alors que j'avais toujours ressemblé à mon père. Et puis Isabelle encore, bonjour, j'ai pris un coup de vieux lorsqu'en parfumerie, on a mis dans mon sachet, vers seulement 40 ans, des échantillons de crème anti-rides, alors que je n'avais aucune ride. Tiens, Martin Legros, Eric l'évoquait tout à l'heure, dans sa chronique, les philosophes ont établi des stratégies hein, pour faire face au vieillissement. Plusieurs stratégies se présentent à nous. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Oui, j'en retiendrai trois. Il y a la première, il y a touché d'ailleurs, il y a la première qui est celle de l'économie. Préserver ses forces, préserver ses forces, ne pas se dépenser de manière excessive parce que la récupération va être difficile qui est un peu la stratégie aussi du conseil, c'est-à-dire faire bénéficier les autres de notre expérience plutôt qu'agir. La deuxième stratégie, c'est l'inverse, c'est redoubler d'énergie. Quand on prend conscience que l'échéance de la mort se rapproche, eh bien on redouble d'énergie. Pensez à tous ces écrivains, de Cervantes à Proust en passant par Kant, qui ont commencé leur œuvre tardivement comme Kant à 50 ans, mais qui s'est dépensé de manière comme un foudre de guerre à partir de cet âge-là. Et puis la troisième stratégie, après l'économie ou la dépense, c'est la stratégie, je dirais, du transfert. C'est-à-dire, c'est un peu ce que Hugo disait dans l'art d'être grand-père, trouver dans la jeunesse une sorte de rafraîchissement, de capacité à d'énergie nouvelle. Et c'est ce que Paul Ricoeur appelait aussi, à la fin de sa vie, dans un très beau texte, Vivant jusqu'à la mort, il invitait à se rendre disponible pour l'essentiel et à transférer sur les autres nos proches notre amour de la vie. Et donc il y a l'idée d'un transfert de notre expérience et de notre vie aux autres. Donc voilà trois stratégies: l'économie, la dépense et le transfert, qui me semble pertinente.
Docteur Lefebvre-Desnouettes, j'ai repéré dans votre livre un très bel ode à la vieillesse. Vous pouvez nous en lire quelques
avec joie,
quelques lignes.
Quelques lignes. Pourquoi une ode à la vieillesse? Parce que les personnes âgées sont notre passé et notre devenir. Parce qu'elles sont vivantes malgré les chagrins. Parce que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Parce qu'elles sont mystérieuses. Parce que leur silence bruisse. Parce que l'usure du temps n'a pas eu de prise sur les sourires d'enfants. Parce que elles sont le parfum de l'enfance. Parce qu'elles sont gourmandes. Parce qu'elles font semblant d'être sages. Parce qu'elles valent bien. Et je vais dire, en plagiant le beau endormi de Victor Hugo, parce que dans le regard du vieillard, il y a de la lumière, alors que dans le regard du jeune homme, il y a une flamme.
Allez, pour terminer, je vous propose d'écouter Jean Rochefort en 2012, c'était sur France Culture.
Plus on vieillit, moins c'est inquiétant. J'ai passé ma vie d'homme mûr à penser à autre chose qu'à la mort 5 à 6 minutes par jour. Le reste du temps, je ne pensais qu'à la mort. Et quand elle approche, on commence à s'en foutre. Donc je rassure tous les jeunes, vivez tranquillement. C'est moins angoissant à 81 ans qu'à 40 ou 50. C'est utile, je fais un acte utile. Avis aux auditeurs éventuels, décontractez-vous, n'y pensez pas ou moins. Et ça va aller mieux, vous vivrez plus intensément.
Martin Legros.
Oui, c'est très beau, c'est très beau. Mmh. C'est, on voit qu'il veut faire bénéficier de son expérience, tout en disant finalement ça ne compte pas, je n'ai pas peur, j'ai une vitalité, une éternité, une forme d'éternité. Mmh. Et donc c'est très beau comme leçon. C'est une leçon à la fois de vitalité et en même temps d'expérience, parce que c'est au bord de la mort, ou au bord de grand âge, qu'il annonce, qu'il s'adresse comme ça. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle le transfert.
Docteur Lefebvre-Desnouettes.
Oui, il explique qu'il a eu longtemps peur de la mort. Et puis, à l'arrivée de cette mort, au contraire, il veut dire, mais avec beaucoup d'humilité, voilà ce que je vous transmets. Vivez, profitez, restez vivants jusqu'à la mort. Et non seulement il nous transmet sa sagesse, mais sa voix, qui sera éternelle.
En tout cas, Maje, tu seras peut-être centenaire. Il y a de fortes chances.
Sûrement. Hein,
docteur
oui,
Desnouettes.
Oui, une petite fille sur deux qui naît sera centenaire.
Merci pour cette première radio.
Ouais, hein, merci Maje. À vous.
Merci Véronique, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Je recommande vieillir n'est pas un crime. C'est publié aux éditions du Rocher. Merci Martin Legros. Le nouveau numéro de Philosophie Magazine est disponible en kiosque ou par abonnement. Demain, on s'intéresse à la transmission de la cuisine entre grands-parents et petits-enfants. Voilà une belle manière de ne pas se sentir vieux. On s'intéressera également aux nouveaux pères qui s'investissent de plus en plus dans cette transmission culinaire. Vous pouvez nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.